Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ça, c'est de la vue!
Oh, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode de Je t'emmène en voyage, j'avais marqué une petite pause. Et je suis très content parce qu'on revient avec un intervenant, une intervenante d'ailleurs, qui fait une thématique que j'adore, de même, qui est un tour du monde avec son chéri. Et en plus, elle le fait en mode slow travel, sans prendre l'avion. Je te prie de bien vouloir accueillir Céline, a.k.a. Is No Good sur Instagram, Is Now Good. Céline, comment ça va?
Hello Alex, ça va super bien, merci.
Écoute, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que le tour du monde et le voyage, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et c'est vrai que on voit aussi l'impact négatif que ça peut avoir parce que la facilité de prendre l'avion aujourd'hui, elle est juste incroyable. C'est même souvent moins cher que le train. Alors voilà, je pense que le monde marche sur la tête à un moment donné. Et moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à partir en tour du monde sans prendre l'avion?
Ça a vraiment été, en fait, pour des raisons environnementales. Hein, parce qu'en fait, quand tu fais une croix sur l'avion, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement pour ce voyage, évidemment, c'est pour le reste de notre vie, en fait, qu'on a décidé de ne plus prendre l'avion. C'est un énorme, c'est un énorme sacrifice de se séparer de ce mode de transport qui est... en fait, en quelques heures, on peut être n'importe où dans le monde. Enfin, c'est quand même assez incroyable, l'avion. Et donc, tirer un trait sur ce mode de transport, c'est assez difficile. Et je pense qu'il faut vraiment être... ça peut être uniquement pour des questions environnementales, je pense, que cette décision peut être prise. C'est vraiment parce qu'on s'est rendu compte que... en lisant les chiffres, en se renseignant et en voyant que c'était un impact vraiment énorme et que... on a repensé notre vie. Le fait de repenser notre vie nous a permis d'avoir du temps. Et on s'est rendu compte qu'avec du temps, on pouvait arrêter de prendre l'avion. Alors, on s'est dit qu'on allait le faire.
Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'avion, c'est devenu tellement facile. Et que en fait, pas prendre l'avion, c'est... surtout quand on s'engage sur des gros voyages avec des destinations un peu perdues, c'est vraiment un geste aussi engagé. Mais, et ça, on va l'aborder, je pense qu'il y a aussi d'autres aspects... comme tu dis, c'est aussi aménager du temps, s'accorder du temps pour soi. Justement, votre tour du monde et votre voyage, vous y consacrez parce que tu es actuellement pas de retour à Paris déprimé, tu es actuellement à Koh Phangan en Thaïlande, donc tout à fait bronzée et souriante parce que vous êtes encore dans votre voyage. Vous consacrez combien de temps à votre voyage au total?
On est parti sans date de retour.
Génial.
Je pense que c'est... En fait, quand je te dis qu'on a repensé nos vies, c'est parce qu'il y a 3 ans de ça, on travaillait tous les deux en CDI, derrière un ordinateur, on se vouait à une carrière derrière un bureau. Et puis, on s'est dit que donc pour ne plus prendre l'avion, qu'est-ce qu'il fallait? Donc, comme je te l'ai dit, du temps. Et pour ça, il fallait repenser nos carrières. Donc, on a tous les deux démissionné l'un après l'autre. On a trouvé des carrières qui pouvaient se faire à distance. Et puis, une fois qu'on a eu ce bagage-là, on a pu partir et donc sans date de retour, on ne sait pas. Ça fait 10 mois qu'on est parti, aujourd'hui, quasiment. Ouais. Ouais. 10 mois qu'on est parti et je ne sais pas, je pense qu'on en aura au moins pour un an et demi, mais un an et demi simplement pour la boucle qu'on est en train de faire. Après, il y a d'autres projets, traverser l'Atlantique en bateau, plein d'autres beaux projets après.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu es en train de dire que tu avais ta vie... avec un boulot, un CDI, comme tu dis, et que par contre, vous ne vouliez plus prendre l'avion. Donc, ça voulait dire en gros plus de petites vacances de 2-3 semaines ou de petits week-ends en Europe. Mais ça vous appelait tellement et vous aimiez tellement ça que vous avez décidé de vous prendre une grosse dose de voyage sans prendre l'avion, c'est un peu ça en fait?
Ouais, en fait, avant, quand on avait nos CDI, on partait comme tout le monde, parce qu'en fait, avant de décider de ne plus prendre l'avion, on prenait l'avion. Enfin, il n'y a rien de magique, en fait, on n'est pas né comme ça, on ne prend plus l'avion. Avant de prendre cette décision, enfin, le dernier gros voyage qu'on a fait, on était encore en CDI, on est parti 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Enfin, aujourd'hui, ça nous paraît complètement égoïste, en fait, un choix pareil. Enfin, juste venant de nous, ça nous paraît égoïste, mais avant, c'est ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas tellement on se fait des grosses sessions voyage, c'est plus que le voyage fait partie de notre vie. Enfin, c'est, il n'y a pas de destination, on n'a pas de date retour, c'est juste que, voilà, quand on a envie de revenir un petit peu voir nos familles, on revient et puis on peut repartir quand on veut. C'est plus, ça fait partie de la vie.
Ça, c'est intéressant, c'est que, qu'est-ce que vous faisiez comme métier, tous les deux? Et qu'est-ce que, quand tu dis on a réaménagé nos vies professionnelles, vous faites aujourd'hui? Parce que si je comprends bien, vous faites un tour du monde, mais vous avez encore une activité un peu professionnelle ou rémunératrice. C'est-à-dire que finalement, vous êtes en ambiance slow travel et digital nomade aussi.
Ouais, les deux en même temps. Donc en fait, David, lui, ça a été un changement un peu plus facile. Donc David, mon compagnon, il travaillait dans l'informatique, il est ingénieur informatique. Et donc, il est développeur web aujourd'hui. C'est une formation qu'il a reçue lors de son école d'ingénieur. Et puis ça se fait très facilement en freelance. Moi, par contre, ça a été un changement radical. Je faisais de l'audit financier, j'ai un master en finance. Ma carrière était promise derrière le bureau toute ma vie. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que je me suis posé des questions et que j'ai réussi à imaginer un autre mode de vie. C'est peut-être aussi que je faisais vraiment un métier qui me prenait tout mon temps, qui n'allait pas du tout avec mes valeurs de vie, parce que consommer mieux, vivre mieux et plus consciemment, ça fait 7-8 ans déjà qu'on se pose les premières questions. Et moi, mon métier correspondait pas du tout en fait à ce que j'appliquais dans mon petit chez moi au quotidien. Mmh. Et c'est peut-être ça qui m'a permis de me poser des questions. Et donc j'ai démissionné et aujourd'hui donc j'ai mon blog qui est dédié à la mode éthique, à un mode de vie et de consommation plus responsable. Et j'écris aussi pour tout un tas de clients. Donc je fais de la rédaction web.
Tu m'étonnes que là on passe de OK, je vais te faire un audit financier pour que tu te fasses encore plus d'oseille sur des façons un peu, enfin voilà, pour optimiser ton rendement. Je rentre à la maison, je fais gaffe à mes petits emballages, j'ai mon compost, et en fait, qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné, justement, te dire, OK, je pose ma démission, je mets de côté, j'imagine, 6 ans, peut-être 6, 7 ans d'études, et en fait, la carrière qui est tracée devant moi, avec le confort, la sécurité, le salaire qui va avec, parce que en général, c'est des bons salaires. C'est pas facile de faire une croix sur tout ça. Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que finalement c'est une envie qui a grandi, qui est devenue une évidence? Ça s'est passé comment?
En fait, je saurais pas trop dire. Il n'y a pas eu de choc. Parce que c'est vrai qu'en fait, tout était auréolé autour de moi. Tout était valorisé dans ce que je faisais. C'était valorisé auprès des gens, de ma famille, auprès des gens à qui je disais le métier que je faisais. Et puis c'était valorisé, comme tu le dis, dans le portefeuille. Parce que c'est des métiers qui sont extrêmement bien rémunérés. Mais par contre, en fait, je pense que j'avais la notion du temps. En fait, la majorité de la journée, je le passais à faire des choses qui ne me passionnaient pas et je le passais loin de David, donc mon compagnon. Donc, je le passais pas avec les personnes avec lesquelles je voulais être, en fait. Mmh. Et donc, en fait, c'est cette notion du temps, je la valorisais davantage que l'argent qui allait tomber à la fin du mois sur mon compte en banque. Et je pense que j'ai remis en question du coup la valeur réussite, celle qu'on nous apprend. Pour moi, c'était plus gagner beaucoup d'argent, faire un métier que personne ne comprenait. C'était plus revenir à la simplicité et être un peu plus heureuse.
En fait, tu avais le métier de Chandler pour les fans de Friends. Ceux qui comprennent jamais le métier, mais on sait que c'est un métier stylé, c'est ça?
Un peu, ouais.
Ouais, en fait, petit aparté justement sur ton compagnon, c'est que vu qu'il est développeur web, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui sont dans des bureaux, dans des tours et qui rêvent d'autre chose et qui se disent en plus, putain, quand je pense que je pourrais faire mon métier de n'importe où, comment on fait pour trouver, parce que souvent les geeks, on va pas se le cacher, ils savent coder, mais ils savent pas se vendre. Et c'est souvent ça un frein. Comment on fait pour trouver du travail si t'as filé quelques... J'imagine que vous traînez pas mal ensemble, donc vous discutez aussi, ils te parlent de ça. Comment ils trouvent ses clients? C'est des plateformes? C'est du bouche à oreille? Comment ça se passe pour lui?
Bah alors David, il a créé son profil sur Malte. C'est une sorte de plateforme sur laquelle en fait tous les digital nomades, enfin les freelances en fait de manière générale peuvent s'inscrire, peuvent créer une page.
Ouais.
Et il a trouvé tout de suite ses premiers clients. Et puis ensuite c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire que bah, ça commence comme ça. Et puis il y a du bouche à oreille. Et puis on conserve ses anciens clients. Et puis le portefeuille se fait comme ça. Mais la plateforme Malte, c'est vraiment une super plateforme qui moi aussi m'a permis de trouver mes premiers clients. Donc,
Génial.
ouais, c'est un bon tip à garder.
Bon, maintenant qu'on sait que justement vous arrivez à avoir le temps et à avoir une certaine, voilà, une petite rémunération aussi qui rentre durant ce voyage pour essayer de faire prolonger le plus longtemps possible, vous êtes parti sur quel itinéraire? Donc vous êtes parti d'où et vous avez fait quoi?
Alors, donc ça fait 10 mois qu'on est parti. On a commencé par faire 2 mois en Europe.
Ouais.
Donc là, on a fait l'Allemagne, l'Autriche, République tchèque, Slovaquie,
Ouais.
Hongrie, Pologne. On est remonté par les pays baltes.
Ok.
Et puis là, on a traversé la Russie avec le Transsibérien,
Génial.
1 mois. Puis on a fait la Mongolie pendant 2 mois, dont 5 semaines à vélo.
Un vélo à Mongolie? Alors, j'ai été en Mongolie, je l'ai fait à cheval, je l'ai fait aussi un peu en van. C'est pas facile de rouler dans la steppe, en fait. Il y a des trous partout.
Ouais, c'est pas facile du tout. Mais en fait, on voulait pas. Bah nous, on voulait éviter le 4x4. Parce
Ouais.
que bah, ça correspondait pas en fait. On n'était pas venu là en essayant de limiter notre empreinte carbone pour prendre un 4x4, n'être que deux dedans. Enfin, ça nous correspondait pas. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce pays qui n'a aucune route, aucun moyen de transport en commun. Enfin, il n'y a pas de bus. C'est hyper difficile en fait de voyager en essayant de respecter un petit peu la faune et la flore de ce pays. Et donc, on s'est dit bah, le vélo. Et donc, on est parti. On a fait 5 semaines dans la steppe. C'était, je pense, enfin. L'un des meilleurs moments du voyage, sans l'ombre d'un doute.
Ah ouais, c'est intéressant, c'est que, tu sais, je pense que les gens qui s'imaginent la Mongolie, et pour y être allés, ils ont raison de s'imaginer ça. C'est des très 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 grandes steppes avec un truc qui ressemble à la même chose quand tu regardes à gauche ou à droite, et qu'il faut faire pas mal de bornes avant que ça change, ou pour voir une yourte qui est à peu près à 20 km à l'horizon là-bas. Comment vous faisiez pour vous ravitailler en eau et en nourriture?
Ben alors en eau, nous on est parti avec un purificateur d'eau, donc qui nous permettait de boire l'eau de n'importe quelle source qu'on trouvait.
Génial.
Donc on
Bon,
avait en
est-ce que ça a
général
marché? Attends,
entre.
excuse-moi, petit aparté, pas de problème, pas de maladie, parce que j'aimerais bien promouvoir ces choses-là, parce que faut que ça rentre dans l'esprit des gens qu'aujourd'hui on peut arrêter d'acheter des bouteilles plastiques, mais on a toujours ce truc, ouais, mais j'ai peur quand même de tomber malade. Donc toi qui l'as utilisé longtemps, comment ça a été?
Ah ouais, franchement ça marche super super bien.
Génial.
Enfin nous on a bu vraiment dans des eaux. Enfin, quand on s'en approche, ça pue, il y a des chevaux autour, donc ils font caca dans l'eau. On a bu dans des eaux noires, enfin, ce
Ah
qui faisait
ouais.
vraiment flipper. On n'est jamais tombé malade, ça marche super bien.
Wow. Et c'était quoi la marque?
Lifestraw.
Ah ok, c'est de l'Astro, ouais, celle qui est connue, ouais.
Lifestraw, et en fait, on a choisi le modèle, il faut faire attention à ça, on a choisi le modèle le plus précis, avec le filtre le plus précis qui permet de filtrer les virus. Et en fait, avec ça, c'est vraiment, on peut être tranquille.
C'est génial, génial. Excuse-moi, du coup, c'était une petite aparté. Donc ok, en fait, vous baladiez le long des rivières, j'imagine, pour essayer d'avoir de l'eau tout le temps.
Ouais.
Et
En fait, on avait pas mal identifié le parcours justement pour les points d'eau parce que comme tu dis, il faut pas manquer de l'eau. C'est vraiment le truc essentiel si on veut survivre 5 semaines. Enfin,
tu m'étonnes.
et ouais. Et pour manger, ben on avait, en fait, sur nos vélos, on devait avoir à peu près entre 10 et 15 kilos, je pense.
Ok.
Et donc on avait à manger.
Ouais.
Mais en général, voilà, quand il y a deux, trois yourtes, elles ont toujours des choses à vendre. Elles
Ah
ont
bon?
toujours un petit peu de riz, elles ont des choses.
Connaissant un peu les Mongols, est-ce que c'était pas plus genre, t'es à vélo? Mais vas-y, viens, viens manger, viens dormir. Ou ça vous est pas du tout arrivé, ou est-ce que finalement c'est un cliché qui s'est perdu ou...
Non, ça nous est arrivé tout le temps. Et c'est pour ça, en fait, que c'est notre meilleur souvenir. Et ça encore, c'est un exemple de plus qui explique que le slow travel, c'est formidable. C'est que si on n'avait pas fait ça à vélo, si on ne l'avait pas fait aussi lentement, on n'aurait pas rencontré autant la population locale. En fait, on était sans arrêt avec les nomades. Ils passaient leur temps à venir nous voir. En fait, il ne s'est pas passé un soir sans que un nomade, même si, comme tu dis, en fait, on met du temps à aller d'une yourte à une autre parce qu'ils sont vraiment perdus dans la steppe. Eux, ils sont toujours là avec leur moto ou avec leurs chevaux et ils voient tout. Ils savent, en fait. Ils savent à des kilomètres et des kilomètres qui est où. Et donc, tous les soirs, il y avait au moins un nomade qui venait nous voir pour nous demander d'où on venait, où est-ce qu'on allait. Tout ça avec des gestes, évidemment, parce qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais, mais c'était vraiment super. Et puis, on va nous inviter chez eux parce qu'ils sont tous dans le partage. Enfin, c'était extraordinaire, vraiment une aventure extraordinaire.
Juste, si on peut clore le chapitre Mongolie avec... si on était autour d'une table et on était avec des potes, là, et que tu devais raconter une petite anecdote bien marrante ou bien sympa qui t'a marqué ou touchante, je ne sais pas, qui commencerait par... Ah non, mais je vous ai pas dit ce qui nous est arrivé en Mongolie. Ça serait laquelle, cette petite anecdote?
Bah alors, en Mongolie, on s'est fait kidnapper.
Wow. Ah ouais, d'accord. Ça commence bien, ça commence pas mal, l'anecdote.
Non, on s'est fait kidnapper gentiment, mais quand ça nous est arrivé, on savait pas du tout où on allait, quoi. En fait, donc il y a deux petits garçons qui faisaient du cheval, enfin, à notre hauteur pendant qu'on faisait du vélo, et on comprend qu'ils veulent nous inviter chez eux. Donc on les suit jusqu'à leur yourte. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on entre dans une yourte, la famille est dedans, en train de vaquer à ses occupations. Donc la maman était en train de tisser un beau manteau assise par terre. Le papa était malade sur le coin, il y avait ses petites filles assises avec lui. Et personne n'a bronché. En fait, on est rentré et puis tout d'un coup, on est allé chercher les petits fromages, on est allé chercher le thé. Enfin, tout était magnifique. Enfin, ces gens sont tellement dans le partage et on est tellement déconnecté d'un partage aussi bienveillant que... On ne peut que être ébahi à chaque fois que ça arrive. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, on décide de partir parce qu'on voit que la plus grande fille est en train de préparer des couchours avec du mouton. Et nous, tous les deux, on est végétariens. Ah. Et donc, on veut pas refuser parce qu'on sait que c'est très mal vu. Et puis, en plus, qu'ils sont tellement à vouloir tout nous donner qu'on ne veut pas avoir à leur refuser, à leur dire non.
Ouais, bien sûr.
Donc, on commence à leur dire « Bon, il va pleuvoir, on va repartir. » Et c'est là qu'on se fait kidnapper. ils commencent à discuter entre eux et puis tout d'un coup il y en a un qui arrive avec une moto qui nous demande de monter derrière et nous parce que on n'a pas envie de leur faire de peine parce qu'ils ont été tellement gentils avec nous, on monte avec eux. Ils passent donc avant de partir, ils passent récupérer un couteau dans la yourte voisine. Et puis on part à fond la caisse dans la montagne.
Attends,
sans casque.
Et vos vélos?
On les laisse là-bas, on les laisse dans la yourte. On part juste sur la moto avec ce type qui nous amène, on ne sait pas où, avec un couteau.
Donc. Eh oui, vous avez fait un faux pas, on ne vous l'a pas dit, on va vous zigouiller derrière la montagne, ni vu ni connu.
C'est ça. Moi, je me disais, mais à quel moment, en fait, on va retrouver nos corps? À quel moment nos parents vont s'inquiéter parce qu'on ne leur donne pas des nouvelles tous les jours. Donc, à quel moment ils vont s'inquiéter? Comment on va nous retrouver?
Ouais.
Et donc, on nous amène et puis en fait bon, ça se termine plutôt bien. En fait, c'était, enfin, juste, on a eu peur en fait.
Nous
pour
a coupé
nos
un bras, c'est un tout. Enfin, finalement, on s'en sortait bien, quoi. Franchement, sympa le mec.
On a eu peur en fait, surtout qu'il tue le mouton devant nous. On s'est dit en fait, ça va être pire que tout. Ils vont nous montrer que le mouton vient d'être tué et que ça a été fait pour nous.
Je t'avoue que je l'avais un peu vu venir, celle-là. Du coup, c'est pas ce qui s'est passé.
C'est pas ce qui s'est passé.
Oh putain.
Non, en fait, ils nous ont amenés dans une écurie un peu désaffectée dans laquelle ils avaient des chevaux qui étaient là.
Ah, yes.
Et en fait, ils nous ont montré comment ils soignaient les chevaux. Donc, bon, évidemment, donc c'est tout par geste et par compréhension de langage des signes, évidemment.
Ouais, ouais.
Mais en fait, on a compris que l'un des chevaux avait du mal à respirer. Ouais. Et donc, ils lui ont enfoncé le couteau dans le palais. Et donc, selon eux, ouais. En fait, on a eu peur jusqu'au bout qu'ils tuent le cheval parce que nous, du coup, on se disait mince, ils vont tuer le mouton. Et puis, en fait, quand on a vu qu'on arrivait avec les chevaux, on s'est dit mince, ça va être pire que tout, ils vont tuer le cheval.
En fait, vous étiez en pression tout le long, quoi. C'était pas du tout un moment de détente, pas du tout un moment de détente, d'exaltation. C'était putain.
Pas du tout. Donc, une fois qu'ils ont sauvé le cheval, on était rassurés. Puis ensuite, ils nous ont fait monter sur la moto. Si t'es allé en Mongolie, t'as dû voir ça aussi. Ils nous ont invités à rapatrier leur bétail.
Ouais.
Tu sais, ils font ça. Hein. Donc, on était, nous aussi, sur la moto, en train d'hurler avec les bras en l'air.
C'est ça.
Pour,
moi, il m'avait filé une petite bouteille en plastique avec des cailloux dedans. Ça fait un peu de bruit. Bon, c'était... Voilà, c'était... Chacun son truc pour faire un peu de bruit. Puis, sauf que moi, le mec s'était barré pendant une demi-heure. Tu vois. Donc, j'étais tout seul au milieu de la steppe, aller dans une direction. Fais, va par là. Ah, t'es mignon, toi. Donc, c'était...
Ouais, bon.
Donc, ok, pas mal. Pas mal, cette anecdote. Et du coup, après la Mongolie, vous avez fait quoi?
Donc, ensuite, on est parti en Chine.
Ouais.
Donc là, on est resté 2 mois en Chine, puis 1 mois à Hong Kong, puis un autre mois en Chine.
1 mois à Hong Kong?
Ouais.
Est-ce que c'était...
1 mois à Hong Kong.
Qu'est-ce qui vous a... Parce que, alors, j'imagine... que si les gens ne connaissent pas Hong Kong ou ne sont pas renseignés, Hong Kong, grosse ville, gratte-ciel. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, si, c'est le cas, c'est dans des parties, mais ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester un mois pour justement explorer tout le pays et tous les parcs nationaux qui sont nombreux et qu'on ne connaît pas ?
Bah, c'est exactement ça. En fait, nous aussi, on est arrivé avec plein d'a priori à Hong Kong et on y allait seulement pour faire un nouveau visa pour la Chine. Donc, on comptait y rester une semaine, enfin, simplement le temps du visa.
Ouais.
Et puis, en fait, bah, on a découvert que le territoire de Hong Kong, c'était 30% la mégapole qu'on connaît avec les hauts buildings et l'activité économique et 70% avec des parcs naturels incroyables, des plages magnifiques, personne. Et donc, oui, évidemment, on est tombé amoureux de cette partie qui est vraiment sauvage, en fait. On ne se rend pas compte qu'il y a autant de sauvages à Hong Kong. Et on est resté, bah, par exemple, 10 jours à la plage, dans notre tente. On avait installé la tente sur la plage, on est resté là 10 jours.
Génial.
C'était, c'était super. Donc, Hong Kong, vraiment...
Non, mais ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, quand tu dis ça à quelqu'un, j'ai planté ma tente sur une plage, il dit, mais... J'aimerais faire comprendre aux gens que c'est réalisable. Donc, est-ce que tu peux me donner du moment où tu es dans le centre d'Hong Kong jusqu'au moment où tu te retrouves à la plage et comment tu gères le fait que tu restes 10 jours sur une plage pour rendre les choses concrètes dans la tête des gens qui se disent « Mais de quoi tu me parles 10 jours sur... T'es où en plein... Comment c'est possible ?» Est-ce que tu peux rendre ça réel pour les gens ?
Bah en fait, quand tu es dans le centre de Hong Kong, c'est très, très bien desservi par les tramways et tu arrives en fait très facilement. Si tu vas jusqu'au bout des lignes, tu te retrouves dans la jungle, sur la plage, selon la direction que tu prends. C'est incroyable, dans les bouts des lignes. Ouais, sympa le terminus. Et en fait, ce qu'il y a de génial et à savoir à Hong Kong, c'est qu'ils ont tout organisé. Il y a des campings gratuits partout. Donc, tu as accès à la douche, tu as accès aux toilettes. Tu peux poser ta tente là et c'est absolument génial parce que ça permet en fait que tous les gens qui font du camping sauvage, ce soit pas si sauvage que ça, donc ce soit assez contrôlé, que tu ne retrouves pas des détritus partout que parfois les voyageurs laissent derrière eux. Ouais, bah là, c'est en fait tout encadré, donc il y a des gens qui viennent nettoyer. C'est accessible partout, tu as des campings gratuits partout dans les parties sauvages de Hong Kong.
Oh, c'est génial. Et comment vous faisiez, parce que si vous étiez resté 10 jours, vous êtes un peu mis nulle part, vous reprenez un petit coup de tramway pour en fait aller vous recharger en course et hop, passer une demi-journée à ça ou en fait vous avez mangé des noix de coco et des crabes tout le long ?
Alors nous on mange pas des crabes parce que comme je t'ai dit on est végétarien.
Ah, vous êtes carrément végétalien alors ?
Non, végétarien. Végétarien, on mange simplement pas de viande. Donc,
mais le crabe c'est de la viande ?
On mange pas d'animaux. Okay. On mange pas des animaux.
Ah, ok, pas d'animaux, donc pas de poissons.
C'est la définition de végétarien.
Ok, je pensais que les poissons c'était inclus dans autant pour moi. Et là, tu m'apprends, je peaufine un peu ce domaine dans lequel j'essaie de m'intégrer petit à petit.
Mais par contre, oui, on mangeait des noix de coco et il y avait des petits marchés de légumes et de fruits pas très très loin. Enfin, on loué un petit vélo, donc on faisait 10-15 minutes à vélo et puis on récupérait nos fruits et nos légumes. Et on vivait en parfait Robinson. Et après, pour le travail, pour recharger nos PC, on allait en général se poser dans un café, histoire de recharger pour la journée et de bosser. Et puis le reste du temps, de profiter du temps qu'on s'est créé, du temps pour profiter de la vie un petit peu, de la plage, de la mer.
Et justement, j'aimerais de profiter de cet aparté qui a l'air justement assez idyllique sur ce voyage, pour que les gens comprennent aussi, parce que vous n'avez pas fait le choix de que voyager, vous avez aussi intégré... Et ça se fait de plus en plus, cette partie travail, parce que c'est quand même du travail. Hein, ça, surtout quand tu dois rendre des choses pour des clients, c'est du travail. Ça prend combien de temps dans votre journée quand vous décidez ? Alors, est-ce que c'est déjà tout le long de votre voyage ? Ou est-ce que c'est, OK, j'accepte une mission pour faire rentrer un peu de cash ? Et du coup, c'est quoi le timing, heure de travail et heure de loisir dans ces moments-là ?
Alors avec David, on fonctionne vraiment différemment. Lui, ses missions de développement web, ça marche vraiment. C'est des sessions de plusieurs jours. Donc lui, ça va être un petit peu plus comme tu dis. J'ai besoin d'argent, bim, je vais accepter une mission de 5, 6, 7 jours. Enfin, je sais pas. Moi, par contre, ça va plus être des missions régulières. Je vais devoir me connecter tous les jours, fournir un petit peu de travail tous les jours.
Ah, d'accord.
Donc on fonctionne vraiment différemment. Et après, nous, comment est-ce qu'on fonctionne ? On essaye de limiter au maximum nos dépenses pour travailler le moins possible.
Bien sûr. Est-ce que, vu que vous avez une tente, donc vous essayez, de dormir un maximum en tente ou en camping, ou privilégier ces logements-là, ou est-ce que des fois vous allez chez l'habitant ? C'est quoi un peu la répartition de vos logements ? Parce que j'imagine que des fois, t'es en couple, allez, tu sais quoi, on se fait plaisir, on se prend un petit guest house ou un petit truc. Comment c'est à peu près la répartition, s'il y a une règle, ou s'il n'y en a pas, ou c'est un peu au feeling, j'en sais rien.
Bah oui, comme tu dis, en fait, on a vraiment la chance de travailler en même temps, donc pas d'avoir une enveloppe et un budget à respecter, sinon il faut rentrer. En fait, on n'a vraiment pas ça, donc on a quand même un certain luxe par rapport aux voyageurs long cours qu'on peut rencontrer en général.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que oui, la plupart du temps, on est chez l'habitant.
Ah, c'est vrai, vous êtes chez
Mais
l'habitant?
ouais, la plupart du temps.
Tu veux dire, c'est des guest houses où vous dormez chez l'habitant ou même des fois vous faites inviter?
Bah les deux.
C'est vrai?
Ouais, en fait, on essaye en revanche de vraiment éviter les hôtels qui ont un impact sur tout un tas de sujets environnementaux assez colossaux, que ce
Alors,
soit énergétique.
voilà, est-ce qu'on peut faire un petit récap pour ceux qui... Voilà, hein, ça existe, hein, on incrimine personne, mais juste pour rappeler l'impact des hôtels un petit peu haut de gamme ou un petit peu classe ou un petit peu, voilà, des hôtels froids, bêtes et méchants, quel est l'impact sur l'environnement énergétique?
Ben en fait, l'impact, il est énorme et sur plein de sujets. Bon, évidemment, il y a tous les hôtels qui vont défigurer les paysages, mais ça, bon, c'est quelque chose dont tout le monde peut se rendre compte. L'impact énergétique, il est énorme parce que en fait, les lumières dans un hôtel sont toujours allumées, la plupart du temps, que ce soit dans les halls, dans les couloirs, etc. Ce sont des lumières qui sont toujours allumées. Il y a parfois des hôtels, enfin, même la plupart du temps, surtout quand c'est des hôtels haut de gamme, les serviettes de toilette sont changées tous les jours, les draps, parfois aussi. Et puis tout ça, en fait, on n'y pense pas, mais c'est encore une fois des coûts énergétiques énormes parce que c'est répercuté sur l'ensemble des chambres de l'hôtel, c'est énorme. Et puis aussi, enfin, ça fait augmenter En fait, le fait que les hôtels haut de gamme sont très rarement administrés par des personnes qui habitent ou qui sont d'origine du pays. Ça aussi, ça veut dire que l'argent, finalement, on ne va pas le donner aux populations locales. On va le donner ben, à des investisseurs la plupart du temps. Et donc, enfin, nous, en tout cas, c'est pas le genre de tourisme qu'on veut soutenir. Nous, quand on va dans un pays, on veut que ce pays en bénéficie, enfin, en tout cas, les habitants de ce pays en bénéficient.
Génial. Merci pour ce petit point. On ne se rend pas toujours compte parce que tu sais, quand on va aussi en vacances, qu'on a 5 semaines de congés payés, on a envie de se faire plaisir, comme on dit. Et quand on veut se faire plaisir, on ne veut pas faire de mal non plus. Parce que ce n'est pas le but, c'est se faire plaisir, ce n'est pas faire du mal. Mais c'est vrai qu'il faut de plus en plus, je pense, intégrer le fait qu'on peut se faire plaisir en prenant peut-être un tout petit peu plus de temps pour trouver un hébergement qui soit bah, peut-être tenu par des locaux, qui soit tout mignon, mais avec des valeurs peut-être un peu plus responsables. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. On incrimine personne, mais ça vaut le coup de jeter un œil parce que voilà, ça fait, comme tu l'as très très bien résumé, Céline, ça a tout cet impact-là. J'aimerais qu'on revienne justement sur le côté budget. Voyager comme vous le faites, c'est-à-dire bah, pas prendre l'avion, essayer de dormir dans des petites guest houses, dans des petits hébergements mignons, ou parfois en tente, et puis manger, j'imagine, dans les petits bouibouis locaux aussi. Et en plus, végétarien, parce que j'imagine, bah, les plats à l'étranger, dès qu'il y a de la viande, bah, c'est quand même plus cher. En France, non. Un plat végétarien, c'est le même prix. J'ai jamais capté le délire, mais bon. À l'étranger, la viande est quand même valorisée, c'est comme un mets de luxe. C'est quoi votre budget, enfin, ou si vous avez fait des calculs jusque-là depuis ces 10 mois, votre budget journalier à peu près, ou peut-être par mois, peut-être que vous calculez par mois à deux, ça revient à
Oui,
combien?
alors on n'a pas trop de budget, mais après, ça dépend vraiment des pays que tu traverses. Enfin, nos
Bien
deux
sûr.
premiers mois en Europe, évidemment, on dépensait beaucoup plus que là, depuis qu'on est en Mongolie, Chine, Laos, Thaïlande. Tout ça, c'est des pays où, enfin, je pense qu'à deux, notre budget par mois, vraiment tout compris, ça reste moins de 1 500 euros par mois à deux, je pense.
Ouais, donc c'est 750 euros, c'est ouais, c'est ça. En fait, c'est la moitié d'un SMIC que tu peux dépenser sur place en ayant sans faire le fou, mais en ayant un toit, en mangeant correctement, en pouvant te déplacer, etc. Oui, d'accord. Justement, après Hong Kong, on a fait un aparté où tu m'as fait briller les petits yeux, tu m'as mis des petites étoiles dans les yeux, je vais pas te le cacher parce que moi je connais pas Hong Kong. Vous êtes allé où après? Ça a continué jusqu'où?
Donc après Hong Kong, on est parti 30 jours dans le Yunnan. Donc c'est dans
Yes.
le sud de la Chine. Ouais, c'est superbe. Puis ensuite, on a continué. Donc, on a passé la frontière Chine-Laos. On a passé 30 jours au Laos. Là aussi, grosse, grosse découverte. Le Laos, c'est un pays qui a ouvert ses frontières il y a seulement 15-20 ans. C'est encore très sauvage. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. C'est vraiment à découvrir.
Le seul problème,
Et
c'est qu'il
là,
y a
on est
beaucoup
passé.
d'investisseurs chinois, justement, ces dernières années, qui sont en
Oui.
train de tout récupérer et de malheureusement dire, hey, super cette jungle. Et apparemment, il y a des minerais très cool là-dessous. Et moi, ça a été un de mes grands coups de cœur parce que les Laotiens sont juste En fait, tu arrives dans ce pays, surtout quand tu arrives de la Chine, ce qui m'est arrivé. Donc, en plus, tu as passé cette fameuse frontière où c'est in your face. Genre, tu sais, genre l'énorme. Genre, tu es dans un pauvre pays, tu sais, le Laos tout tranquille. Et là, moi, j'étais venu du Laos pour aller en Chine, pardon, c'est l'inverse. Et tu arrives sur une frontière ultra moderne, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive d'une pauvre route de merde. Donc, vous avez fait l'effet inverse. C'est genre le truc un peu énorme, chinois, ouais. Vas-y, on est les boss. Et tu arrives au Laos où c'est genre. T'es instantanément, t'es détendu. Il y a un truc comme ça qui est vachement. Ouais, allez au Laos. Allez au Laos. Et encore une fois, si vous allez au Laos, faites gaffe aussi où vous allez pour essayer d'impacter positivement l'économie et pas aller chez les investisseurs parce que c'est des gens incroyables. Voilà, petite parenthèse sur Laos qui m'a aussi un gros coup de cœur. Et ensuite, après Laos, pardon.
Et après Laos, bah, la Thaïlande. Donc ça fait peut-être 10 jours là, qu'on est arrivé en Thaïlande. Voilà, donc tout ça, 10 mois.
10 mois. Quand vous vous déplacez en dehors du vélo justement et du transsibérien que tu nous as mentionné, c'est quoi votre façon de sélectionner les transports ou les moyens de transport? C'est vraiment le transport local de prédilection? Ça va être, je sais pas, des fois ça va être le train, j'imagine, en Chine. Ça va être les petits bus, les petits bus locaux en fonction des autres pays, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait le moyen de transport, local. Donc comme tu dis, les bus, les trains. Et puis après, bah, quand tu te retrouves en Mongolie et qu'il n'y a pas de moyen de transport local à part le cheval, comme tu l'as dit.
Et le van russe. Et le van russe qui, effectivement, n'est pas le moins polluant du monde. Hein, parce qu'il a un moteur des années 30 ou 50. Donc forcément, ce n'était pas encore super bien optimisé à l'époque. Bon, au moins, ça se répare avec un coup de marteau. Et ça, quand tu es au milieu de la steppe, tu es content que le mec puisse réparer ça facilement. Je te parle d'expérience de cause. Il y a un truc sur lequel j'ai envie de revenir, c'est vous êtes parti parce que vous vouliez changer de façon d'aborder votre vie et votre rapport au temps et votre façon d'apprécier chaque instant du quotidien, ou en tout cas essayer de voir si c'est possible de l'expérimenter différemment, parce qu'après voilà. Avant de passer aux leçons de vie que ça vous a enseigné, parce que pour moi c'est aussi ça le voyage, surtout quand on le vit comme ça, en plus en gardant cet aspect un petit peu de vie quotidienne parce qu'il y a encore un peu de travail dedans. C'est quoi aujourd'hui les mauvais côtés de ce quotidien-là? C'est quoi ce truc, tu dis ça c'est un peu relou, ou ça ça nous pèse, ou ça c'est un peu chiant? Avant de passer au côté, aux belles leçons, j'aimerais bien qu'on commence aussi par là, parce que j'ai pas envie d'éviter qu'on on idéalise ces choses-là, j'aimerais qu'on le prenne dans sa globalité, tu vois.
Moi, je dirais que ce qui nous pèse le plus sur le cœur, en fait, quand on décide de pas prendre l'avion, c'est qu'on peut pas se dire, tiens, ma famille me manque beaucoup, on va aller les rejoindre, passer 10 jours avec eux pour Noël, et puis on partira ensuite pour reprendre le cours de notre voyage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. On n'a pas d'idée, en fait, de quand on rentrera en France la prochaine fois, et donc, je t'ai dit, c'est peut-être dans 1 an et demi. Et donc, en fait, savoir qu'on n'a pas de moyen de rentrer, et c'est quelque chose qu'on a totalement perdu. C'est presque inimaginable quand on vit dans une société où l'avion existe depuis qu'on est né. C'est presque inimaginable, en fait, de se rendre compte de ça, de la distance qui nous sépare et du temps qui nous sépare. Parce que nous, en fait, même si aujourd'hui, on décidait de rentrer chez nous, on aurait encore des semaines. Enfin, il faudrait encore attendre des semaines avant de rentrer. Je pense que c'est le principe. C'est ce qui nous pèse le plus.
C'est vrai que j'avais pas songé à ça, en fait, ce côté genre ah, ma famille me manque, ah mais putain on a mis 10 mois à venir là, merde. Même si on bombarde, on en a pour un petit mois pour rentrer facile, tu vois, forcément. Et même si on dort dans le train ou dans les bus en permanence, ok. Qu'est-ce qui justement passait ce côté qui peut être pesant, et je peux parfaitement le comprendre, c'est quoi les leçons de vie que t'as tiré de tout ça? En tout cas, je te parle de toi, parce que après David, je ne sais pas. J'imagine que chacun ressent aussi les choses différemment. J'aime bien aussi quand on aborde les leçons de vie, de se dire comment tu percevais la vie avant, comment tu la perçois aujourd'hui, quelles étaient tes valeurs ou quelles étaient tes priorités, quelles sont aujourd'hui. Peut-être pour donner des pistes. Après, ça se trouve tu vas me parler totalement autre chose, mais.
Moi, je dirais que j'ai énormément grandi sur. L'autre n'est pas dangereux ni méchant. Il est même plutôt bienveillant et accueillant. Moi, j'ai énormément grandi de ce point de vue-là depuis 10 mois. Parce qu'en fait, le voyage slow, c'est un voyage qui va te mettre en fait très souvent dans des situations où tu vas te retrouver avec l'autre. L'autre va t'aider. Enfin, tu vas être beaucoup plus près de lui en fait que quand tu as seulement 3 semaines, que tu as tout millimétré parce que ben voilà, tu prends l'avion dans 3 semaines pour rentrer, donc tu veux aller là, et donc ça te laisse absolument pas le temps de rencontrer les gens. Ouais. Et le voyage slow, et ben t'es tout le temps avec eux et tu t'aperçois en fait que peu importe où tu te retrouves dans le monde, et notamment voilà, ces nomades perdus dans la steppe par exemple. Ouais. Ils n'ont pas grand-chose et pourtant ils vont t'accueillir à bras ouverts quand tu vas rentrer dans leur yourte. Ils vont t'offrir tout ce qu'ils ont. Et ça, en fait, on l'a retrouvé dans tous les pays qu'on a traversés. Et moi, j'ai énormément grandi là-dessus parce que bah, je suis d'une société individualiste et j'ai grandi avec ces idées. Et c'est vrai que ça donne plein d'espoir, en fait.
Ah, c'est toi, ça t'a redonné, malgré... Parce que, tu vois, moi, j'allais te poser une autre question aussi, c'est de se dire... Avant, quand on partait en voyage, et quand je te dis avant, c'était il y a 5-6 ans, pas forcément plus, c'est assez récent. Tu partais en voyage avant ces 5-6 ans, puis tu profitais de la Terre, tu profitais de la planète, elle est belle, ça t'apportait, enfin, c'était une espèce de... c'est un terrain de jeu incroyable, sans fin, qui t'apporte autant que tu pourras en vouloir, parce que tu n'arriveras jamais à tout voir et à tout expérimenter. Et depuis ces 5 dernières années, avec... le changement climatique, avec la planète qui se dérègle, avec tous les problèmes voilà, qu'on voit. De toute façon, on le voit. Et c'est, le feu, ça se voit bien. Je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas le nier. Comment ? Parce que moi, même si maintenant, je voyage, mais je voyage régulièrement, mais je ne suis pas dans cette itinérance. Tu vois, je vais re-rentrer. Donc, ça reste des expériences. Comment, justement, tu perçois le voyage ? Parce que moi, parfois, ces derniers temps, je suis un peu genre, putain, avant, je vois genre, waouh ! Maintenant, je suis genre un peu limite, genre, ah, je le vois, mais ça va disparaître. Quand... Je ne sais pas si ma question n'est absolument pas claire, on ne va pas se le cacher. Mais ce que je veux dire, c'est que comment le fait de voyager...
L'avenir du voyage, tu peux dire.
Ouais, l'avenir du voyage par rapport à ça. Comment tu le conçois ? Parce qu'avant, justement, c'était un truc genre, ouais, j'ai expérimenté tout ça, j'en veux plus. Est-ce que au contraire, ça te donne quand même de l'espoir parce que tu es au contact de gens où tu te dis, ben, dont on ne parle pas et qu'il va y avoir des changements ? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, ben, en fait, chacun vit son truc dans son coin ? Et qu'il n'y a pas une prise de conscience générale et que finalement, sans s'en rendre compte, on va tous dans le mur.
Ouais. Oui. Moi, j'ai de l'espoir parce que, effectivement, cette bulle d'individualisme qui s'était créée autour de moi, finalement, elle a éclaté. Mais effectivement, ouais. C'est un tout autre sujet parce que tous les voyageurs qu'on rencontre, et tu vois, quand on a dit à tout le monde « allez voir le Laos », moi, en fait, intérieurement, je me dis « mais allez-y sans avion ». En fait, l'impact de l'avion, il est vraiment énorme. On s'en rend peut-être pas compte, mais en fait, quand on lit les chiffres, juste pour faire un peu d'arithmétique, ouais. On a droit, normalement, en tant qu'individu, à 1,22 tonnes de dégagement CO2 par an, par individu. C'est le bagage en fait, qu'il faudrait respecter si on ne veut pas augmenter encore la température de l'air. Arriver au fameux plus 1,5 degré dont parle le rapport du GIEC. Et par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est 1,9 tonnes. Donc on parlait de 1,22 tonnes de dégagement CO2 par individu par an. Un aller-retour Paris-New York, c'est 1,9. Un aller-retour Paris-Bali, ça va être un peu plus de 4 tonnes.
Ok, donc là,
c'est-à-dire comme si on dépensait 3 années, un peu plus de 3 années. Enfin, tu vois, c'est énormissime. C'est vraiment énormissime quand on regarde les chiffres. Et en fait, ça, il faudrait que les gens s'en rendent compte. Et moi, en fait, maintenant, quand je parle de voyage, et c'est ça qui me fait peur parce que je partage aussi mon voyage un petit peu sur les réseaux. Et moi, j'ai peur que les gens aient envie d'aller voir ces endroits et qu'ils aient envie d'y aller comme ça en prenant l'avion. Et en fait, il faut vraiment repenser le voyage de manière globale et se rendre compte que, enfin, il faut le penser de manière collective et pas égoïste. Et je pense qu'on ne peut aujourd'hui, on ne peut aller loin que si on prend le temps d'aller loin. Et je pense que c'est ça l'avenir du voyage. Je pense que si on n'a pas le temps, il y a des choses splendides tout autour de soi. Enfin, surtout en Europe, en fait, il n'y a même pas besoin de faire des visas pour découvrir des pays magnifiques avec des cultures, de la gastronomie magnifique. Il y a même des plages à côté de chez nous en France. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire si on n'a pas le temps d'aller loin. Et si on veut découvrir le Laos, selon moi, il faut prendre ce temps. Et pour moi, c'est le... Voilà. C'est dur à entendre.
Je bois tes paroles. Je bois tes paroles tout en sachant que je ne l'ai pas appliqué puisque je ne cherche pas non plus à me faire tu vois, pas de blanche, au contraire, je suis à Bali. Donc j'ai niqué 3 ans de bilan que je viens de me rendre compte, tu vois, juste avec ce trajet-là, et j'en ai fait d'autres cette année. Enfin, pas cette année parce qu'on est dans une nouvelle année, mais tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, tu vois, c'est exactement pour les raisons que tu as données. que j'ai notamment une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon métier d'influenceur voyage. Mon métier, c'était de donner à un maximum de gens l'envie de voyager parce que ben, ça apporte énormément de choses, dont une des choses que tu as citées, ce côté genre « Ah, mais en fait, le voisin, l'étranger n'est pas dangereux, n'est pas malveillant. » Et pour moi, je pensais que ça apportait un plus pour la planète. Sauf qu'on est arrivé tellement à une accélération de la dégradation environnementale que le crédit qu'on fait pour améliorer les états d'esprit devient trop élevé par rapport à l'impact que ça a sur l'environnement. Si ma phrase fait du sens. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire, merde, en fait, j'encourage des gens à défoncer la planète sans même qu'eux s'en rendent compte, sans même que moi, je m'en rende compte. Alors qu'à la base, encore une fois, c'est pour faire du bien. Et je n'avais pas de réponse. Et même si du jour au lendemain, je commençais à dire arrêtez de prendre l'avion et de voyager, ça aurait eu aucun impact et ça aurait fait l'effet inverse. Donc, j'ai préféré arrêter, en fait, pour être fidèle à mes valeurs, valeurs que moi-même, je dois appliquer d'abord à moi, puisque encore une fois, je suis à Bali, je le rappelle. Et c'est un vrai travail. Et c'est, comme tu dis, un vrai choix. Et je trouve ça magnifique. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu te faire intervenir dans ce podcast, parce que je trouve ça incroyable. C'est un beau choix. C'est un choix tous les jours. Et que, évidemment, vous le vivez, c'est extraordinaire d'être à Copenhague. Mais putain, vous avez mis 10 mois pour y arriver. Donc, vous la méritez, votre plage. Je peux vous dire que vous la méritez, la plage Butcher, quoi, putain. Et c'est un super rappel de se dire, hey, la Pologne, l'Estonie, la Roumanie, la Slovénie, c'est à une, deux journées de bagnole, tu vois. Et si on est 3-4 dans la voiture, on peut même y aller en train, on peut même y aller en bus, tu vois. Donc déjà, on peut même y aller en stop. On peut y aller en stop, tu vois. Et Dieu sait qu'il y en a plein qui le font. Donc c'est, je trouve que c'est, voilà, je faisais une parenthèse pour vraiment dire aussi que, encore une fois, c'est super ce choix que tu as fait. Et il ne faut pas négliger, en fait, l'impact du tourisme, parce que ce podcast aussi, il s'appelle Je t'emmène en voyage. Donc c'est aussi pour ceux qui n'ont pas forcément envie ni le temps d'aller à l'autre bout du monde, de raconter tout ce qui peut s'y passer. Mais c'est aussi de donner l'envie d'aller se dépasser, d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et tant qu'à faire, si maintenant, tu vois, surtout que dans les derniers podcasts, il y avait des gens qui ont fait le chemin de Saint-Jacques à pied, il y avait des gens qui ont fait le tour du monde à vélo, et pas que la Mongolie, ils avaient fait tout le tour du monde à vélo. Donc il y a plein de... En stop, enfin, il y a plein de choses à faire. Je ne peux donner aucune leçon parce que je suis un des pires. Mais je commence vraiment à me poser les bonnes questions et les commencer à les appliquer. Et voilà. Donc, merci pour, en tout cas, ce témoignage. C'était une petite parenthèse. On va revenir sur des choses un peu plus glamour, un peu plus sympa, un peu plus jovial. Et c'est, j'aime bien ce truc de, écoute, on revient autour de cette petite table. Hein, on est à Copenhague. Hein, on a pris, merci. C'est quoi déjà la bière? La bière en Thaïlande, c'est là.
La bière là-haut,
c'est au Laos.
La Singa,
mais c'est pas celle-là la plus connue. C'est pas grave, la Bintang, parce que je suis en Indonésie. Mais en gros, on est autour d'une petite table. Il y a plein de voyageurs, on est tous un petit coup dans le nez, hein, voilà. Et il y a un petit battle d'anecdotes, tu vois. Genre celui qui sort les anecdotes où tu dis, oh putain, vous savez pas ce qui m'est arrivé, attention les mecs, un truc énervé, tu vois. Genre, waouh, c'est pas vrai, il t'est arrivé ça. Que ce soit dans la surprise, le truc inattendu ou la peur. On a déjà eu le coup de la Mongolie. Qu'est-ce que tu me sortirais pour gagner le petit battle?
Bah, je dirais que là, on est arrivé à Copenhague.
Ouais.
Et on est en fait à Copenhague, donc c'est un peu divisé en deux cette île. Au sud, tu vas voir toutes les plages avec les fêtes, etc.
Ouais.
Et en fait, tout ce qui va être la partie ouest de l'île va être complètement hippie. Donc tu vas avoir là tous les centres de yoga, de relaxation, tu vas avoir tout un tas de retraites organisées. Okay. Et dimanche dernier, à peine, on est allé faire 2 heures d'ecstatic dance. Et donc là...
Alors attends, qu'est-ce que l'ecstatic dance?
Bah tu vas voir, attends.
Oh génial.
Je savais pas vraiment avant d'y aller moi aussi.
Ok, fais bien, on va faire de l'ecstatic dance. Ça a l'air sympa. Bon,
on a suivi des amis qui y allaient tous les dimanches.
Ah ok,
on
d'accord.
On leur a dit, bah ok, on vous fait confiance. On y va, un peu la peur au ventre, parce qu'on savait que ça allait être un petit peu bizarre, un petit peu hippie, un petit peu où est-ce qu'on nous amène.
Ok.
On monte les escaliers qui nous amènent vers donc une espèce d'immense salle avec un toit et des moustiquaires partout sur le mur.
Ouais.
On pousse la porte et là, je dirais une cinquantaine de personnes en train de danser de manière transcendantale avec une musique de jungle, enfin un truc vraiment de fou furieux, en train de hurler, de marcher par terre. Et en fait, l'ecstatic dance, c'est simplement se retrouver et danser tous ensemble comme si personne n'avait le droit au jugement de l'autre, comme si personne ne te regardait. Donc en fait, ce que tu pourrais faire toi tout seul dans ta chambre avec la musique à fond, bah là, il y a 50 personnes qui se retrouvent tous les dimanches pour le faire, mais tous ensemble. Et donc, ça te crée une espèce de cohésion, de groupe, de gens qui exultent, je sais pas, enfin tout quoi, qui sortent tout par la danse, par les cris, par le chant, par tout ce avec le avec quoi tu peux l'exprimer. Et ça rend, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, je souhaite tout le monde en fait de faire ça une fois dans sa vie.
Ah, tu t'es pas senti complètement en décalage. Au contraire, t'as plongé dans l'expérience, tu l'as vécu à fond.
Ah ouais. En fait, au départ, évidemment, c'est, enfin, t'ouvres la porte et puis tu passes dans un autre monde. C'est un truc, enfin, on vit dans une société du jugement. Et là, en fait, tu rentres dans un espace où le jugement n'existe pas, où même l'image n'existe pas, parce qu'il n'y a même pas le droit de filmer ou de prendre une photo. Enfin, l'image, le jugement n'existe pas dans cette pièce où toutes ces personnes sont rassemblées. Et donc, forcément, au début, quand tu pousses la porte, il y a une espèce de choc, en fait, des cultures. Et puis très vite, en fait, le groupe t'emporte avec lui et pendant 2 heures, en fait, tu te lâches, quoi. Tu lâches prise et tu es toi-même et tu. Enfin, c'est vraiment extraordinaire.
Et en gros, tu te retrouves avec des gens qui hurlent, qui crient, qui sautent, qui se roulent par terre, c'est ça ?
C'est ça.
Et toi, t'as fait des calibrations. C'est bête, mais justement, quand tu te dis où tu lâches tout, comme tu dis, c'est quoi toi qui t'es venu ? C'est plutôt courir, sauter physiquement, au contraire, hurler comme pas possible ou te rouler par terre ou...
Moi c'était pas tellement dans le cri, mais parce que j'ai peut-être pas réussi totalement à me lâcher, enfin je sais pas, mais moi par contre j'étais plus à sauter partout, à danser, enfin vraiment à comme j'aurais fait toute seule dans ma chambre quoi.
Génial, pas mal, pas mal. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il disait salto arrière.
Alors David, non lui il s'est mis un petit peu plus en retrait, il s'est dandiné 2-3 fois, mais je crois qu'il a pas réussi à se lâcher totalement.
Ah ok, non mais c'est intéressant parce que je pense que ça demande un vrai travail sur soi et de se dire, tu sais quoi, allez, je joue le jeu. Tant pis pour ce que je pense, tant pis pour ce que je fais. En fait, je pense qu'il faut aussi oublier qu'il y a les gens autour. En fait, tu vas utiliser les gens pour t'emmener dans cet univers. Et puis après, c'est ton expérience à toi. Enfin,
tu utilises leur énergie et c'est très, très beau d'ailleurs à recevoir parce qu'en fait, les gens qui sont là, ils sont tous le sourire, ils sont... c'est extraordinaire comme énergie, en fait. Et si toi, tu peux, tu la prends pour toi et tu la fais ressortir comme tu as envie de le faire. Et c'est vrai qu'il faut réussir à lâcher prise et je pense que ce n'est pas forcément facile.
Ah non, je pense que c'est vraiment, vraiment pas facile. Surtout que la chose qui est belle là-dedans, c'est qu'il faut y aller se donner, se lâcher prise, comme tu dis, et pas juger les autres. Et pas arriver, parce que pour lâcher prise, il ne faut pas dire « Mais le tir est retardé, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Mais il faut vraiment se dire « Ok, c'est eux, entre pas qu'on raison, mais qui « Ok, on y va. » Donc, ok, pas mal l'anecdote, pas mal, pas mal. Écoute, Céline, je vais finir par les deux petites questions que j'aime bien, par lesquelles j'aime bien terminer ce podcast traditionnellement. La première, c'est « Si je te prête les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un seul moment de ces 10 mois de voyage, ce serait lequel ? C'est pas forcément ce que je dis souvent, pas forcément le plus dingue, c'est pas forcément le plus triste, mais un moment que t'aimerais revivre, cette sensation, ce serait laquelle ?
Alors je dirais que c'est le soir où on a, en fait, donc quand on est allé en Chine, on a fait notamment la muraille de Chine et on s'est consacré aux parties sauvages de la muraille de Chine.
Génial.
Et on a fait une portion qui s'appelle Jiangkou, qui est bien connue pour être périlleuse et dangereuse, parce qu'en fait, tout est effondré, mais qui est aussi très connue pour être magnifique. Et en fait, après une journée à avoir risqué notre vie plusieurs fois à escalader des parois avec nos gros sacs à dos, on est arrivé sur ce qu'on pourrait appeler le toit du monde, une des tours de garde les plus hautes de la muraille de Chine. On avait une vue à 360 degrés incroyable sur un coucher de soleil avec des couleurs, c'était magnifique. Et donc, on a posé la tente là. Et je pense que ça restera le plus beau bivouac de notre vie. Et la sensation, en fait, de satisfaction d'avoir fait cette journée périlleuse et puis la récompense, en fait, à la fin. Je pense que je voudrais bien revivre ce petit moment.
Magique. Magique. Tu m'as emmené avec toi. Dernière question. Si tu devais résumer ce voyage en une punchline, une citation, une phrase de ta création, ça serait laquelle ?
Je dirais que le voyage n'est voyage que s'il n'a pas de destination.
Oh, ça c'est une phrase de ta création.
Ouais.
Eh ben tu sais, on n'en sort pas souvent. Tu sais, on n'en sort pas souvent des phrases de sa création. Souvent, ça reprend des petites punchlines ou des citations assez connues, souvent très bonnes. Mais du coup, j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup Céline, d'avoir partagé toute cette aventure avec nous, ta philosophie, ta façon d'aborder le voyage, les leçons que tu en as tirées, ces anecdotes. C'était vraiment génial. Internaute, tu peux retrouver Céline sur tous les réseaux sociaux et sur son blog aussi directement, où il y a plein de super astuces, plein aussi, si tu as envie de t'habiller avec des façons un peu plus responsables et une démarche plus éco-responsable, tu vas sur son blog EasyNow et good, comme bien en anglais. Et c'est pareil pour ses réseaux sociaux. Et là-dessus, tu vas à la fois avoir du voyage, tu vas aussi avoir voilà, comment consommer responsable. C'est vraiment un super blog. Et moi qui m'intéresse, tu vois, qui ai envie de refaire ma garde-robe en ce moment, parce que je suis en plein changement dans ma vie, et du coup, ça repasse. Les meufs, c'est la coupe de cheveux, moi, ça va peut-être être les fringues. Et ben, ça passe aussi. Là, je suis en train de me dire, attends, au lieu d'acheter des vêtements stylés, pourquoi j'achèterais pas des vêtements stylés qui, en plus, ont un petit impact sur l'environnement, ou en tout cas, qui ont peut-être même un bon impact sur l'environnement. Donc, j'ai été faire un petit tour sur ton blog et je t'encourage à le faire, internaute. Avant de nous quitter, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, c'est une petite dédicace en story. Que tu sois en train de courir, en train de faire du fruit picking en Australie, en train d'explorer une jungle au Brésil ou tout simplement à ton bureau ou dans les transports pour rentrer chez toi, un petit dédicace en story en nous taguant, ça nous fera très, très, très plaisir. Céline, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Et je vous souhaite avec David une excellente fin de voyage parce qu'il y en a encore pour un an et demi et on va suivre ça. Et ça pourrait être intéressant de refaire un podcast à votre retour. Ça pourrait être vraiment très cool. Ça marche ?
Ça marche. Merci beaucoup.
Ciao Céline, bye.
Salut.